Le 5 décembre, c'était les 10 ans de la mort de Nelson Mandela que le monde entier commémorait. Paris Match, par exemple, dont l'ancien directeur Olivier Royan avait réalisé une interview exclusive de Madiba en 2006. Quand Mandela me prend la main, je comprends que je vis l'un des moments les plus intenses de mon existence. Paris Match, donc, n'a pas manqué de saluer Nelson Mandela, l'icône de la liberté. Disparu il y a 10 ans, le 5 décembre 2013, l'ancien activiste, symbole du combat contre le régime raciste de l'apartheid et qui n'a jamais cédé à l'esprit de vengeance, forçait l'admiration. Chef d'État revenu de la haine, il était un trésor d'humanité, un homme du bien, un homme de paix. Après Madiba, le musical qui faisait son retour au Grand Rex l'année dernière, cette année, c'est carrément La Poste qui a consacré un timbre hommage à Nelson Mandela 10 ans après sa mort. En Afrique du Sud, cette semaine, les commémorations avaient une tonalité un poil moins consensuelle que celle qui a cours généralement en France quand on évoque la figure mythique de Mandela. La Fondation Mandela avait par exemple invité pour sa 21e conférence annuelle Malala Yousafzai. Malala, vous savez, c'est cette jeune fille qui s'était battue pour la scolarisation des filles au Pakistan, qui a échappé à une tentative d'assassinat par les talibans, qui ont quand même réussi à lui mettre une balle dans la tête, et qui a survécu et qui est devenue, à 17 ans seulement, prix Nobel de la paix. Eh bien, voilà ce que Malala déclarait cette semaine à Johannesburg.
As they did in the 1990s, they quickly began the systematic oppression of girls and women. For a short time, this made headlines. But since then, the world has turned its back on the Afghan people. Maybe this reflects the sheer number of crises the world is facing. Violence and displacement in Sudan, famine in Yemen, the climate crisis being debated right now at COP28, war in Ukraine, and of course, the unjust bombardment of Gaza, where a child is killed every 10 minutes. So much of humanity is wounded.
Et pendant que la prix Nobel de la paix dénonçait le bombardement injuste de Gaza, le petit-fils de Mandela, Mandla Mandela, lui-même député, organisait une conférence sur le conflit israélo-palestinien. Une conférence et une cérémonie d'hommage auquel il a convié Bassem Naïm et Khaled Kadoumi, deux responsables du Hamas. Oui, oui, du Hamas, ce groupe armé palestinien qui a mené les attaques atroces du 7 octobre et qui est classé organisation terroriste par des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre. Mais ça ne veut rien dire, puisque figurer dans ce classement n'est pas forcément un certificat de méchanceté. Devinez quelle organisation figurait elle aussi sur la liste des organisations classées terroristes par les États-Unis et le Royaume-Uni, l'ANC, le Congrès National Africain, le parti de Nelson Mandela qui a été interdit en Afrique du Sud pendant 30 ans, de 1960 à 1990. Mais précisons que Mandela n'a pas toujours été un terroriste. Jusqu'en 1960, le jeune militant est même plutôt légaliste, jusqu'au massacre de Sharpeville. On est alors en mars 1960. L'ANC organise des manifestations non violentes pour réclamer l'abrogation de la loi sur les passeports intérieurs. Les passes, c'était des espèces de livrets ouvriers réservés aux Noirs et qui étaient censés permettre de surveiller leurs déplacements. Dans le township de Sharpeville, pendant cette manif de mars 1960, la confrontation avec les flics se passe mal. Ça dégénère, la police tire à balles réelles sur les manifestants, qui sont des personnes âgées, des femmes, des enfants. Bilan, 69 morts et 178 blessés. Quand la nouvelle parcourt tout le pays, une grève générale est déclenchée, ce qui fournit le prétexte au gouvernement pour déclarer le Congrès national africain, l'ANC, illégal. C'est comme ça que Mandela, en basculant dans la clandestinité, bascule aussi dans la lutte armée. À la violence de la répression d'État répond la violence des actions, appelons-les terroristes, de l'ANC. Des sabotages, beaucoup de sabotages, mais aussi quelques bombes qui explosent dans des cafés. Mandela fonde et prend le commandement de l'Umkhonto we Sizwe, la branche militaire de l'ANC, responsable de ces sabotages et de ces explosions. Mandela devient donc un terroriste et c'est pour ça qu'il est condamné en 1964 à la prison à vie pour terrorisme, mais aussi pour communisme. Car ça, on le sait moins, Mandela, en même temps qu'il était membre de l'ANC, était aussi adhérent au parti communiste sud-africain, ce qui était à l'époque largement aussi grave que d'être un terroriste. Le jeune Mandela nourrit, il est vrai, de grandes ambitions de transformation sociale, de nationalisation d'entreprises et de redistribution des richesses. Hélas, patatras, une fois libéré 30 ans plus tard et élu président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela va complètement renier son programme socialiste et va se convertir au libéralisme en vogue à l'époque, Clinton aux États-Unis, Tony Blair au Royaume-Uni ou Jospin en France. Au programme austérité budgétaire, réduction des déficits, privatisation de certains secteurs et suppression des barrières douanières. Un néolibéralisme qui va creuser les inégalités en Afrique du Sud, ce qui fait que certains aujourd'hui se montrent assez sceptiques sur l'héritage de Mandela.
Au cœur du township de Soweto, les Sero est né après l'apartheid. Cette étudiante en psychologie de 20 ans n'est pas touchée par les commémorations des 10 ans de la mort de Nelson Mandela.
Pour moi, c'est un traître. Je ne pense pas qu'il était avec nous. Il a dit qu'il s'est battu pour les Noirs, pour nous, mais beaucoup de ses promesses n'ont pas été tenues. Il y a beaucoup de choses qui nous ont désavantagés, nous les Noirs. On doit travailler 2 fois plus, 10 fois plus qu'une personne blanche.
Comme les Sero, beaucoup de jeunes ici ressentent de l'aigreur à l'égard du premier président noir d'Afrique du Sud. L'icône catalyse les frustrations économiques générées par les échecs de l'ANC, le parti de Nelson Mandela au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Devant sa maison, au cœur de Soweto, tous ne partagent pas l'admiration des touristes pour la figure historique.
Nous n'avons rien à cause de lui. Même aujourd'hui, je souffre. J'ai mon bac, mais je vends toujours ses chapeaux.
30 ans après la fin de l'apartheid, certains estiment aujourd'hui que la réconciliation voulue par Mandela s'est faite au prix de trop lourdes concessions.
Ce qui est quand même marrant, c'est qu'aujourd'hui, les personnes les plus critiques, ou même les seules personnes au monde qui soient critiques sur Mandela, ce sont des Noirs d'Afrique du Sud. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que pendant les 30 années de clandestinité de l'ANC, il n'y avait pas beaucoup de pays pour soutenir le terroriste Mandela, dont les photos s'étalent pourtant aujourd'hui dans Paris Match. L'ANC, pendant toutes ces années, a toujours pu compter sur le soutien des pays socialistes amis, comme l'URSS ou Cuba. Fidel fut d'ailleurs un des invités de marque lors de la cérémonie d'investiture de Mandela à la présidence en 1994. Mais en dehors des pays communistes, les autres pays étaient plutôt du genre à considérer l'ANC comme une organisation terroriste et à soutenir Au contraire, le régime ségrégationniste. Les États-Unis, par exemple, et le Royaume-Uni n'ont jamais cessé de soutenir politiquement et économiquement le régime de l'apartheid. Et jusqu'au dernier jour de leur mandat, Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni feront tout pour empêcher que des sanctions internationales soient prises contre l'Afrique du Sud. Comme le rappelle Alain Grech dans un article du Monde Diplo intitulé « L'évangile selon Mandela », c'était l'époque, en Grande-Bretagne, où l'association des étudiants conservateurs affiliés au parti distribuait des posters proclamant « Pendez Nelson Mandela et tous les terroristes de l'ANC, ce sont des bouchers !» Même en France, il a fallu attendre 1981 et l'élection de Mitterrand pour que l'ANC devienne un interlocuteur à qui il est possible de parler. Avant 1981, la liste des entreprises françaises qui font des échanges et qui font du profit en Afrique du Sud avec l'aval de Giscard est longue comme le bras. Le summum de cette collaboration étant la signature d'un contrat en 1976 pour la construction d'une centrale nucléaire en Afrique du Sud par le français Framatome. Comme le fait remarquer Le Monde à l'époque, la France est en curieuse compagnie parmi le petit peloton de partenaires jugés sûrs par Pretoria. Et un autre partenaire jugé sûr par Pretoria, ça va être Israël, au nom de leur lutte commune contre le terrorisme, la lutte contre l'ANC en Afrique du Sud et en Israël, la lutte contre l'organisation terroriste de l'époque qui s'appelle l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, avant qu'elle ne devienne un partenaire d'Israël pour la paix. Le gouvernement israélien va même tellement se reconnaître dans le régime raciste sud-africain qu'il va l'aider à acquérir la technologie nécessaire pour construire la bombe atomique. On ne sait jamais si la situation nous échappe. En remerciement de ce précieux transfert de technologie de la part d'Israël, Tel Aviv recevra comme cadeau la visite en 1976 du premier ministre sud-africain lui-même, oui, le fameux Balthazar Vorster. Je dis fameux parce qu'ils ont bien dû se marrer quand même, les survivants de la Shoah, en serrant la louche à un membre du Parti national sud-africain qui, dans les années 40, appartenait à l'organisation sud-africaine pro-nazie Oseva Brandvag. Comme quoi, la lutte contre le terrorisme mérite bien d'avaler quelques svatiska ou de refaire un apartheid, car apartheid, c'est désormais le nom que certains donnent au système discriminatoire en vigueur en Israël. Certains comme Amnesty International, Human Rights Watch ou encore Tamir Pardo, ancien chef du Mossad qui faisait cette déclaration il y a quelques mois, lorsque, dans le même territoire, deux personnes sont jugées dans deux systèmes judiciaires différents, c'est un état d'apartheid. Alors pour finir, vous voulez savoir ce que Mandela disait des Palestiniens ? Eh bien Mandela disait « Nous savons bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. » Ce à quoi, à la mort de Mandela en 2013, Marwan Barghouti avait répondu « L'apartheid ne l'a pas emporté en Afrique du Sud, il ne l'emportera pas en Palestine. » Marwan Barghouti, vous savez, on le surnomme le Mandela palestinien, enfermé qu'il est depuis 20 ans dans les prisons israéliennes, alors qu'il constitue pour l'instant le seul interlocuteur palestinien à peu près envisageable pour Israël, qui se plaint tout le temps justement de ne pas avoir d'interlocuteur avec qui parler. C'est sans doute précisément pour ça que les autorités israéliennes le maintiennent en prison. Je vous laisse avec cette image de Mandela. On est en 1999, il se rend à l'invitation de Yasser Arafat à Gaza. Il y fait un discours pour demander le retrait d'Israël des territoires occupés. Et il dit aussi ça.
choose peace rather than confrontation, except in cases where we cannot get, where we cannot proceed, where we cannot move forward. Then, if the only alternative is violence, we will use violence.
Cette phrase, on la retrouve aussi sous sa plume dans les mémoires de Mandela. Alors, je vous la redonne à méditer pour le week-end. C'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'a pas d'autre choix que de répondre par la violence.